Samedi dernier, la Confédération paysanne manifestait à Arras devant la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer. Cette mobilisation faisait suite au mouvement social des agriculteurs lancé en France par d'autres syndicats, la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Alors pour parler de ce mouvement et des points communs et des divergences entre syndicats, on vous propose d'écouter sur Radio PFM un entretien par téléphone avec Antoine Gommel, porte-parole de la Confédération paysanne du Nord-Pas-de-Calais. Il est agriculteur, éleveur de bovins pour la viande et de poulets en bio à Houillères-Effroy, c'est dans le Boulonnais.
Alors en fait, le mot d'ordre de départ, hein, le mal-être paysan, comme on a dit, qui a fait que ça s'est mis en action là depuis 10 jours, c'est quand même la question centrale du revenu des agriculteurs. Et là-dessus, c'est vraiment nous un combat qu'on mène avec la Confédération paysanne depuis de nombreuses années, hein, on interpelle beaucoup à ce sujet-là. Et du coup, sur ce point-là, on est totalement raccord, entre guillemets, on va dire, avec le mot d'ordre, même si c'est d'autres syndicats qui n'ont pas les mêmes idées que nous. En tout cas, là-dessus, on était tout à fait d'accord, quoi. Et par contre, donc c'est là où il y a des divergences, c'est-à-dire que pour nous, le revenu des paysans, en gros, il faut pas se tromper de cible, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y aurait trop de normes ou que on enlèverait l'avantage fiscal sur le gasoil que c'est ça qui nous empêche d'avoir un revenu digne, quoi. Et du coup, nous, on a toujours été, et on l'a dès le début, de dire oui, un revenu digne pour tous les paysans, mais par un changement de modèle, quoi. C'est-à-dire, les deux revendications qu'on avait, c'était la suppression des accords de libre-échange et également une autre manière de former le prix des produits agricoles, notamment en interdisant de vendre en dessous du coût de production. Et donc là-dessus, on n'était pas sur la même ligne, parce que pour nous, en fait, on a besoin, nous, en tant que paysans, d'être protégés par des règles pour éviter de se mettre en concurrence les uns avec les autres, quoi. Et donc, appeler à baisser les normes, c'est vraiment une fausse bonne idée, quoi. C'est vraiment notre point où là-dessus, on n'est pas d'accord. Tout ce qu'on a réussi à gagner depuis des années pour protéger l'environnement et la santé et des paysans et des consommateurs, ça a été une bataille qui n'a pas été facile, et il y a quand même eu des progrès depuis quelques années, et on trouve que c'est inadmissible de revenir en arrière là-dessus, quoi.
Vous avez parlé d'un frein au libre-échange, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des taxes aux frontières, il faut un prix minimum d'entrée sur le territoire, c'est du protectionnisme, c'est ça?
Exactement, ça c'est également une de nos revendications, c'est-à-dire instaurer des prix minimums d'entrée. Donc nous, on réfléchit à ça au niveau européen, hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans l'Union européenne et dans un marché unique, mais du coup c'est d'instaurer effectivement des prix minimums d'entrée par rapport en fonction des normes environnementales et sociales dans les pays qui essayent de faire rentrer leurs produits chez nous, quoi. En gros, quand je parle de concurrence entre paysans, c'est-à-dire nous, entre les paysans français et les paysans du reste du monde, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, il faut protéger l'agriculture et les consommateurs et la planète en imposant des normes. Mais effectivement, si derrière au supermarché, les gens peuvent choisir avec des produits moins chers parce qu'ils respectent pas les mêmes normes, là-dessus, ça peut pas aller, quoi. Donc effectivement, des prix minimums d'entrée, c'est une de nos revendications.
Mais ça veut dire qu'il faut, parce qu'il y a une concurrence aussi à l'intérieur de l'Europe, ça veut dire que tout le monde se met d'accord aussi à l'intérieur de l'Europe?
Alors, je pense qu'effectivement, ça, du jour au lendemain, on ne le fera pas, mais nous, on plaide énormément pour que effectivement les règles soient identiques et soient les mêmes au sein de l'Union européenne, parce qu'encore une fois, là, on l'entend bien, hein. Il y a certains produits qui sont interdits en France, qui sont autorisés apparemment en Italie, etc. Et donc, il y a une concurrence déloyale qui se crée. Mais nous, on est les premiers à dire, c'est pas en abaissant nos normes à nous qu'on va sauver les choses, quoi. Parce que, on va accélérer le changement climatique, on va accélérer les cancers, on va accélérer tout ça. Donc nous, il faut qu'on soit à la... Enfin, nous, quand je dis nous, c'est la France. Dans ce cas-là, il faut... Nous, on plaide pour qu'on soit à la pointe là-dessus, mais du coup, qu'on fasse bouger nos partenaires européens. Et après, moi, je pense que, notamment, il y a un levier dont on parle peu, qui est la politique agricole commune, enfin, le budget de la PAC qui est énorme. Et au niveau français, il y a des possibilités de protéger certaines productions ou en tout cas de subventionner certaines pratiques qui permettent du coup de contrer un peu cette concurrence déloyale qui pourrait y avoir à court terme le temps qu'il y ait une harmonisation plus importante qui se fasse, quoi, vous voyez.
Alors vendredi, il y a une série de mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, notamment sur le gazole non routier et puis aussi sur un meilleur respect de la loi Egalim. Comment vous avez vu un peu ces mesures ?
Alors, j'ai pas du tout été surpris puisque, en tout cas dans les médias, etc., c'était les revendications qui étaient mises en avant médiatiquement, mais aussi par la FNSEA, etc., qui, voilà, mais qui n'est, en tout cas, juste pour ajouter que c'était pas, je pense, au départ, c'était pas des mouvements syndicaux, hein, quand ça a démarré et ça a été un peu récupéré, on a mis ces revendications-là en avant. Du coup, bah, le Premier ministre, il a accédé à ces revendications. Et en fait, nous, on dit, mais on s'est trompé. Il y a eu vraiment une trompe de cible, quoi. C'est-à-dire que, bon, bah, l'histoire du gasoil non routier, en fait, ça va, en gros, encore une fois, ça va avantager ceux qui consomment énormément de gasoil. Donc, ça va créer encore plus d'injustice que ce qu'il y a déjà entre les agriculteurs. Je parlais de concurrence entre les agriculteurs. Ça, c'en est un exemple, quoi. C'est-à-dire que, une ferme comme la mienne, alors moi, c'est vraiment peu, mais, je consomme 1000 litres de gasoil par an, mais j'ai plusieurs collègues, etc., ils consomment 3, 4, 5 000 litres peut-être par an. Aujourd'hui, par exemple, c'est 15 centimes d'euros, hein, l'avantage fiscal par litre. Donc ce qui veut dire pour 4 000 litres, ça fait 600 euros. À l'inverse, il y a des fermes aujourd'hui qui consomment 30, 40, 50 000 litres de fioul par an. Donc c'est ces gens-là qui vont en gros avoir un avantage très important. Donc nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça nous convient pas du tout. Et après, il y a eu aussi également, donc vous parliez de la loi Egalim, ce que je disais, c'est première nouvelle, c'est-à-dire qu'une des annonces, c'est juste de dire on va faire respecter la loi. C'est quand même vachement questionnant. Ça veut dire que du coup, ils étaient bien au courant que la loi existe et qu'ils ne la font pas, elle n'est pas respectée et l'État ne la fait pas appliquer. Et pour calmer les agriculteurs, ils nous disent on va la faire respecter. Donc c'est assez surprenant comme point de vue. Mais voilà. Et après, sur le fond de la loi Egalim, l'essence de la loi Egalim, je reviens pas dessus, c'est une bonne idée. C'est-à-dire que du coup, l'idée de départ, c'était de dire on part du coût de production de l'agriculteur, et ensuite le prix doit être fixé en remontant la chaîne au niveau des intermédiaires un par un jusque la grande surface à la fin, pour ne pas acheter les produits en dessous du coût de production. Sauf qu'au moment où ils ont refait la dernière loi Egalim, il y a beaucoup de lobby à l'œuvre là-dedans, et en fait, pour déterminer le prix d'achat au producteur, il faut prendre le critère du coût de production, mais on a ajouté aussi d'autres critères, et notamment un des critères, c'est les cours du marché. Donc c'est-à-dire que même avec la loi Egalim qui serait bien appliquée, il va y encore y avoir des produits qui vont être vendus sous le coût de production. Donc la loi Egalim, elle ne doit prendre en compte au départ que le coût de production de l'agriculteur, quoi, si on veut qu'elle soit vraiment efficace.
Vous avez parlé du mouvement actuel comme partie de la base récupérée par les syndicats majoritaires. Et vous, là-dedans, est-ce que vous vous joignez à ce mouvement ? Comment agir, vous ?
Oui, bah, alors effectivement, c'est ce qui s'est passé, pas en Nord-Pas-de-Calais, mais ailleurs en France, notamment là où le mouvement a commencé, certaines personnes étaient adhérentes à la Confédération paysanne, hein, ceux qui se sont mobilisés. Donc on a eu, nous, au niveau national, là je parle, mais des alertes, hein, de la base disant on va se bouger, ça peut plus durer. Donc la Confédération paysanne a du coup réagi à ça. Le malaise qui était vécu, on s'est tout de suite rendu compte que ça correspond, nous, à notre revendication depuis de nombreuses années du revenu paysan. Et du coup, on s'est dit, nous, on s'associe à cette colère et à ce ras-le-bol généralisé qui est là. Mais il faut vraiment qu'on arrive à faire porter la voix d'un autre type d'agriculture et justement de ces paysans un peu des fois de la base qui finalement sont pas représentés par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, quoi. Donc c'est cette voix-là qu'on a essayé de faire entendre, mais qui a pas été toujours bien entendue parce qu'on n'a pas la force de frappe entre guillemets ni les moyens des deux syndicats majoritaires, quoi.
Ce mouvement, il est populaire auprès de la population. La plupart des gens veulent que les agriculteurs soient justement rémunérés. Bon, ils sont pas d'accord, je pense, les gens pour abaisser les normes écologiques. Comment vous voyez un petit peu La vie des gens, ce qui est bien, c'est qu'il y a à nouveau de la discussion et aussi des gens qui se questionnent sur comment ils achètent, ce qu'ils achètent et qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là d'aller plutôt sur les marchés, dans les AMAP et dans d'autres réseaux de distribution alternatifs. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen ?
Ouais, tout à fait. Nous, c'est ça qu'on dit, hein. C'est que la première chose, effectivement, c'est que il y a d'autres lieux où acheter la marchandise que dans les supermarchés. À la mobilisation de samedi, justement, on échangeait avec un autre paysan qui lui vend en AMAP et qui disait, en fait, on a vraiment un déficit aujourd'hui de communication parce que avec l'inflation sur les produits alimentaires qu'il y a eu, ils ont remarqué que notamment c'est dans les AMAP où l'inflation a été la moins importante. C'est-à-dire que dans ces systèmes entre guillemets alternatifs, il n'y a pas eu la même inflation que ce qu'on peut retrouver en grande surface, etc. Parce qu'il n'y a pas tous ces intermédiaires qui ont joué de l'inflation pour augmenter leur marge, quoi. Et donc nous, voilà, ce qu'on dit, un de nos trucs, c'est de dire, c'est ça, allez voir vos paysans, allez sur les marchés, allez en vente directe pour ceux qui le peuvent. Après, parfois, j'entends qu'il y a des gens qui sont dans des campagnes très isolées ou à l'inverse, dans des très grandes villes, etc. Mais en fait, quand on regarde et quand on cherche, on trouve d'autres moyens. Et puis après, nous, c'est de dire aussi, à un moment donné, le consommateur, il faut qu'il joue le jeu, c'est-à-dire aussi de faire la part des choses entre... l'alimentation, c'est très important pour les consommateurs, hein, pour leur santé, pour leur santé mentale, etc. Et à un moment donné, c'est des choix budgétaires qui se font, et actuellement, les choix budgétaires, ils sont toujours sur l'alimentation. C'est-à-dire qu'on a moins d'argent, on fait attention à ce qu'on achète, à ce qu'on met dans le caddie. Mais pour autant, on réduit moins son budget, n'importe quoi, sur les téléphones, sur les vacances ou sur les loisirs, quoi. En tout cas, pour la partie de la population qui peut se permettre d'avoir des loisirs, etc., nous, notre discours, c'est de dire quelles sont les priorités, quoi. Est-ce qu'on peut pas réfléchir collectivement à un changement de paradigme, un changement de priorité sur les budgets des ménages, quoi. Après, effectivement, pour les gens qui sont aujourd'hui dans des situations de pauvreté, de très grande pauvreté, on comprend tout à fait. Et là, c'est pour ça que nous, notamment la Confédération Paysanne, mais pas tout seul, on travaille sur un projet de sécurité sociale de l'alimentation, hein, avec beaucoup d'autres partenaires associatifs, etc., pour justement que même les gens qui sont dans la pauvreté, etc., comme on l'a fait pour la santé, puissent bénéficier de produits de qualité, quoi. Donc voilà, là-dessus, nous, c'est un peu le message qu'on pourrait donner aux citoyens consommateurs.
Oui, justement, dernière question. J'allais vous poser cette question, puisqu'on parle de changement de paradigme. Il y a cette idée qui fait lentement son chemin d'une sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler aux auditeurs, aux auditrices, un peu le principe de ce système ?
Oui, en fait, c'est pas un truc qui existe, donc il y a plusieurs idées qui ça continue de travailler, mais en attendant, c'est vraiment de prendre un peu le système de la sécurité sociale qu'on a faite pour la santé après à la sortie de la guerre, c'est-à-dire que du coup on mutualise des systèmes de cotisation comme on cotise pour l'assurance maladie, et ensuite chaque personne, français, chaque citoyen bénéficie d'une certaine somme d'argent à définir, etc. Là, ça se travaille. Une certaine somme d'argent pour aller acheter directement à des producteurs, dans des magasins spécialisés, etc. Et on peut flécher sur, par exemple, des produits bio ou des produits locaux, ou etc. Ce qui permet, du coup, que la question de l'alimentation ne dépende plus uniquement des revenus du foyer, quoi. Et soit vraiment socialisée par l'État.
On était par téléphone avec Antoine Gommel, porte-parole de la Confédération Paysanne du Nord-Pas-de-Calais, un entretien réalisé hier après-midi. Thank you.